Et bien voilà, c'est maintenant.
À première vue, Pierre-Philippe Kader.
Laurent Félix, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, merci.
Carlo Crisci, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Le restaurant se porte bien ?
Tout va bien, le restaurant est à merveille. On vient de le rénover, en parenthèse, je profite de le dire.
Ouais.
Et tout va bien.
Tout va bien. Vous êtes ensemble parce qu'il y a une histoire commune entre vous, Carlo Crisci, et votre père, Laurent Félix. Votre père, c'est André Félix, sculpteur. Je rappelle donc cette exposition présentée dans les jardins du Centre du Général Guisan à Puy jusqu'au 30 octobre. Votre père a démarré sa carrière pratiquement comme votre grand-père, par ailleurs. Votre grand-père était forgeron, il était rue du Maupas à Lausanne. C'est bien cela.
Exact.
Et puis, votre père a commencé sa carrière d'artiste par un apprentissage de serrurier. Comment cet homme dont nous allons parler, mais on va aussi parler de vous deux, est-il devenu l'artiste dont nous parlons aujourd'hui ?
Alors, c'est difficile de parler de son père et l'histoire de son père parce que, bien sûr qu'il était, avant moi, mais ce que j'ai pu en apprendre, c'est qu'il a... Il a très jeune, pendant la guerre, souffert de la guerre déjà, puisqu'il me rappelait souvent qu'il mangeait du pain à table, à tous ses repas. Et du reste, je crois que c'était un problème chez Carlo, parce que des fois, il n'y avait pas de pain, donc il réclamait le pain. Et c'était des traditions acquises de longue date. Et il a démarré par une passion tout de suite tourné vers les arts, puisqu'il a, senti le besoin de suivre, dans le fond, les beaux-arts à Lausanne en qualité d'auditeur, et parce qu'on ne pouvait pas l'accepter, puisqu'il était, il faisait une profession manuelle. À l'époque, ce n'était pas courant d'avoir des gens déjà qui s'intéressent comme ça aux arts en venant de professions extérieures. On était plutôt architecte ou dans des domaines très particuliers pour suivre les beaux-arts. Et là, bon, il l'avait accepté tout à fait... je dirais amicalement, comme auditeur. Donc sa passion a démarré ici, je dirais, pour l'art. Et par contre, sa vie, bien sûr, elle a d'abord été une vie de serrurier et d'entrepreneur, avant qu'il se tourne définitivement vers l'art, lorsque je suis revenu de l'entreprise dans les années 80.
Carlo Crisci, votre histoire avec André Félix, elle est assez étonnante, elle aussi. C'est d'ailleurs la raison principale qui fait que vous êtes aujourd'hui restaurateur à Cossonay-Ville, dans cet endroit absolument incroyable. C'est grâce à lui.
Absolument, je crois qu'on peut dire que on est fait des personnes qu'on rencontre. Hein, et je pense que M. Félix est vraiment une des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées. Et c'était à la limite du peu probable. Donc j'entends au Paco, j'étais directeur de l'ancien restaurant de mon père. Il n'était pas du tout probable que je fasse la rencontre de M. Félix. Sans le concours de son coiffeur, qui lui était un très bon client et qui aimait bien ce que je faisais déjà à l'époque au Paco. Comme moi, j'ai dû arrêter parce que je ne m'entendais pas avec le propriétaire pour lequel je travaillais. Cette personne a été frustrée de ne plus avoir cette cuisine et c'est lui qui m'a proposé, qui m'a dit « Mais tiens, j'ai un ami qui a un restaurant dans le canton de Vaud et son directeur part. Est-ce que ça t'intéresserait ?» Alors moi, quand un client vous dit des choses pareilles, on n'y croit pas forcément tout de suite. J'ai dit oui, bêtement. Et ma femme, qui ne voulait d'ailleurs plus entendre parler de restaurant parce qu'elle était un petit peu dégoûtée, quelques mois plus tard, était très étonnée d'avoir au téléphone un monsieur Félix qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et qui lui dit, j'ai un restaurant pour vous, est-ce que je peux parler à M. Crisci ? Alors le soir, il m'a appelé, puis il a commencé à me parler de son restaurant, et le lendemain, j'étais sur place à rencontrer ce restaurant, surtout quand il m'a dit, à un moment donné, parce que je lui ai expliqué que je n'avais pas d'argent, puisque j'étais en froid avec mon propriétaire et patron, et quand il m'a dit, l'argent, ce n'est pas un problème, alors quand il m'a dit ça, j'ai pu lui dire, alors je suis votre homme. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, sur un quiproquo, parce que je pense qu'il ne pensait pas que j'avais vraiment pas d'argent. Et c'était une grande histoire, de confiance déjà, puisqu'on a travaillé à peu près 10 ans sans contrat. Et il y avait vraiment chez cet homme une espèce d'humanité qui se rencontre très peu, quoi, j'entends. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Sans lui, on serait pas, c'est vite vu, quoi, on serait pas là. Parce que 6 mois plus tard, le fait de pas avoir d'argent de base, on était dans un jus invraisemblable. Et c'est grâce à lui qu'il nous a aidés, soutenus, et surtout il a cru en nous, quoi.
Le deuxième mois d'exploitation, vous y aviez déjà un déjà mois de retard dans
c'était
vos
déjà
factures.
Plus que... Non, non, c'était on était déjà sous l'eau. Hein. Sans lui, je pense que pendant quelques temps, il n'a pas vu un loyer. Hein. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quoi. Peu de personnages, même fortunés, auraient eu cette patience et cette volonté d'arriver à faire quelque chose du cerf. Mais je pense qu'aussi par rapport à la maison, qui est quand même une maison, pour ceux qui la connaissent, qui est porteuse. Elle ne peut pas laisser quelqu'un insensible et je pense qu'elle mérite d'être... D'ailleurs, ça, j'espère pouvoir faire la même chose pour ma succession, hein, puisque je n'ai pas d'enfant qui est intéressé. J'espère pouvoir faire la même chose pour un jeune par la suite. C'est vrai.
Cette maison, c'était un relais de chevaux au Moyen-Âge. Plus tard, c'était une forge. Cette maison, évidemment, elle a une histoire à laquelle est intimement attachée la personnalité de votre père, André Félix.
Tout à fait.
Est-ce qu'il faut voir un lien, finalement, entre le parcours de votre père et le fait qu'il ait aidé Carlo Crisci de cette façon-là?
Alors, je crois que mon père et la famille, c'est une histoire d'amour, dans le sens où la principale œuvre qu'il a créée, c'est aussi la famille. Et... je pense qu'à Cossonay, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'endroit où son frère faisait de la forge, parce que mon grand-père, à l'époque, avait laissé au Maupa l'atelier de serrurerie à mon père, et son frère avait hérité justement de la forge à Cossonay, à l'endroit même où il y a le restaurant aujourd'hui. Et le frère de mon père est décédé très jeune, il avait seulement 35 ans, et mon père a décidé alors de racheter la maison pour aider la famille, dans le fond. Et puis, c'est justement en retrouvant les archives de la maison, une enseigne sur le cerf, qu'il a eu l'idée de créer cet endroit. Donc, le restaurant a une histoire, dans le sens où je crois que c'est vraiment une histoire de famille. Et mon père voulait garder ce lien familial, parce que pour lui, il avait son frère qui était toujours là-bas, il fallait que ça continue à vivre. Et son idée de créer un restaurant, je crois qu'elle est venue tout naturellement. Par contre, il l'a fait, je pense, avec les gènes qu'il avait dans le sang, c'est-à-dire qu'il a cherché à avoir, je pense, un chef artiste aussi. C'était, je pense, sa grande préoccupation, c'était de retrouver quelqu'un qui savait faire la différence.
Quelqu'un qui lui ressemble, finalement.
Certainement.
Quelqu'un qui soit capable à la fois effectivement de tenir une entreprise, car un restaurant c'est une entreprise, et puis qui amène un petit peu quand même de matière artistique dans cette entreprise.
Alors je crois qu'avec Carlo c'était tout de suite le coup de foudre, parce que dès les premiers instants, je me souviens que bon, il n'y avait pas beaucoup de moyens, comme l'a dit Carlo tout à l'heure, mais il nous a servi des assiettes cassées, des choses très surprenantes. Du reste, des fois, c'était la limite. Mais je crois que c'est ça aussi là, c'est savoir surprendre, savoir faire la différence. Mon père, ce qu'il a toujours conduit, c'est d'exprimer beaucoup avec peu. Et je crois que Carlo, il a su faire ça. Il s'exprimait dans les assiettes, déjà avec le coup d'œil, avec les yeux. C'est un des premiers chefs qui vraiment a développé, je dirais, la cuisine par l'œil d'abord, et ensuite, bien sûr, le plaisir par le palais, la saveur.
Quel souvenir avez-vous de votre père sculpteur?
Ouf. D'abord, donc mon père est un entrepreneur. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que dans ses 40 premières années, il a surtout développé l'entreprise. Il a déposé plus de 70 brevets, donc il était très passionné. Ça a toujours été un créateur né. Et quand je suis revenu à l'entreprise, c'est là où tout a démarré. C'est là où sa passion aussi pour l'art et pour continuer la création, mais dans un autre domaine, quelque part, s'est développée. C'est resté un homme, je dirais un homme des affaires, et d'un autre côté, un créateur qui s'est de plus en plus révélé. Et je l'ai surpris du reste dans sa maison avec son costume cravate en train de tordre des bouts de métal. Donc c'est difficile à raconter, mais c'est tellement comique que j'arrive à la maison, mais t'as même pas enlevé ta cravate. Il tournait ses bouts de métal avec sa cravate encore autour du cou. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et tranquillement, ben, il a laissé la cravate de côté pour continuer à développer des œuvres.
La légende dit que c'est, je ne dis pas par frustration, mais en tout cas pour évacuer une certaine pression, qu'il aurait commencé à tordre du métal, à le marteler, à tenter d'en faire une sculpture, tout simplement.
Alors certainement que c'était un échappatoire. Il faisait beaucoup de sport aussi. Je pense que plus le sport était sa manière de se libérer, mais par contre, sa créativité, il avait besoin de créer. Je crois que autant dans l'entreprise, il cherchait des solutions techniques, ouais, des solutions imaginatives différentes des autres, autant dans l'art, il cherchait. Et ça, j'ai vécu des moments très forts. Il cherchait à exprimer beaucoup avec peu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que si on devait le définir une fois, c'est vraiment un artiste minimaliste qui a cherché à exprimer beaucoup avec peu.
Alors, on voit dans certaines photos du livre, effectivement, cet artiste minimaliste que vous nous décrivez. On le voit là, par exemple, torse nu. C'est dans les années 80, en train de donner une forme à un ruban d'aluminium, semble-t-il. Et puis, à peu près à la même époque, on le voit dans son entreprise, à côté de profils en aluminium, développé sur mesure. Et là, évidemment, il est en costume cravate. Comment est-ce qu'il envisageait l'industrie, lui qui était aussi artiste? Est-ce que, finalement, ce sens du goût, du beau, de l'innovation aussi esthétique, est-ce qu'il l'avait vraisemblablement, c'est le cas, mais vous allez peut-être nous en dire plus, est-ce qu'il l'avait lui aussi dans l'industrie?
Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en qualité d'entrepreneur, vous êtes, je dirais, au service des architectes, surtout quand vous développez des façades modernes. Et je pense que c'est ce qui a été sa grande force, et ce qui a été la grande force après l'entreprise que j'ai essayé de développer par la suite, c'est justement de se distinguer des autres entreprises par un savoir-faire sur mesure. Je disais souvent, l'entreprise était une des rares entreprises, après toutes les crises traversées, à être capable encore, depuis une feuille de papier blanche, à reconstruire totalement un nouveau système. Et ça, c'était lié à justement la culture d'entreprise que mon père avait donné comme impulsion dans le bureau technique en particulier, où on savait faire des choses vraiment au millimètre près, selon le design développé par des architectes, mais toujours en conformité, bien sûr, aux normes. Ça a toujours été la grande complexité du problème, c'était de réussir à faire aussi bien le design que d'être conforme aux normes.
On ne peut pas concevoir aujourd'hui un produit sans penser design. Or, semble-t-il, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a mis ensemble justement les contraintes que lui donnaient les architectes pour réaliser des façades en aluminium, mais il y avait aussi la notion du design, ce qui aujourd'hui est une évidence, mais qui n'était peut-être pas forcément à l'époque.
Je crois que ça n'a jamais été évident. Et mon père s'est battu pour ses valeurs. Enfin, la famille, moi-même aussi, au niveau du conseil d'administration, on a dû souvent se battre pour garder un bureau technique très fort, pour justement être capable de faire ce sur-mesure. Ce qui s'est passé, vous en souvenez, pas très loin de maintenant, dans les années 90, on a vécu une crise très difficile en Suisse, où beaucoup de sociétés concurrentes ont été, comme nous, hein, du reste, très touchées. Et le premier réflexe qu'ont eu toutes les sociétés concurrentes, je me souviens très bien, c'était de supprimer les bureaux techniques, supprimer la recherche et le développement.
L'avenir, quoi.
L'avenir. Et ça, c'est complètement faux. Il ne faut surtout pas faire ça. Et nous, on s'est battu avec mon père pour garder les 40 techniciens qui étaient au bureau technique, qui faisaient la différence justement dans les nouveaux pays qu'on est en train de conquérir. À l'époque, on est en train de rentrer dans des marchés comme l'Angleterre, l'Espagne. Tous ces marchés demandaient beaucoup de ressources, mais aussi le succès dans ces marchés, malgré un franc suisse toujours fort, parce qu'on a toujours vécu un franc suisse fort, la différence, elle se faisait justement par notre design, notre capacité à faire un sur-mesure que les architectes ne trouvaient pas ailleurs. Parce que si vous faites de l'industriel puis que vous essayez ensuite d'adapter l'industriel à du sur-mesure, vous ne faites jamais bien. Une des grandes victoires du reste de l'entreprise à l'époque, c'était aussi le bâtiment de Nestlé, où là, je me souviens très bien, le maître d'ouvrage avait dit, voilà, ce bâtiment est connu dans le monde entier, on aimerait refaire le même design, mais avec une technologie d'aujourd'hui. Alors c'était à l'époque une vieille technologie, avec des profilés non isolants, et la force de l'entreprise, c'était d'aller, dans le fond, copier les profils existants et de recréer une technologie avec des profils isolants, donc pour offrir au maître de l'ouvrage vraiment ce qu'il voulait. Alors c'est clair que c'était beaucoup plus cher, mais ça correspondait exactement à ce que le client attendait.
Il y a un design d'époque aussi, l'aluminium, c'est très connoté années 60, c'est-à-dire c'est vraiment l'explosion de la matière qu'on le retrouve absolument partout.
Alors c'est clair que l'aluminium a été, mon père a été effectivement au départ de l'explosion de l'aluminium, ce qui explique aussi tous ses brevets, le succès qu'il a eu dans ses brevets, c'est qu'il a été au départ d'une technologie, on peut dire quelque part. Et vu qu'il était très créatif, il avait créé des systèmes comme la série 3000 ou la la série d'Echo, des profils qu'on assemblait simplement avec un tournevis, un truc vraiment très simple qu'on pourrait aujourd'hui trouver chez IKEA du reste, mais il l'avait déjà créé il y a très longtemps. Hein, bon. Donc c'est vrai que mon père a toujours été, je dirais, attentif aux évolutions et grâce à l'imagination et la créativité qu'il avait dans le sang, on peut dire ça comme ça, qui m'ont aussi un peu transmise, il a pu faire la différence. Mmh. Je dirais, c'est ce qu'il a toujours distingué dans le marché. J'ai relu encore quelques lignes ce matin d'une personne qui avait écrit sur mon père et qui disait justement que dans le monde des architectes, ce qui faisait la différence, c'était sa capacité à comprendre les architectes et à créer justement ce design que les architectes recherchaient. Parce que des fois, c'est difficile d'exprimer même avec des plans. Et mon père avait la capacité aussi de capter ce que les gens voulaient. Si vous regardez son œuvre, du reste, elle est toujours très, très rigoureuse. Je me souviens pas d'avoir vu une œuvre complètement délirante. Il y a toujours une certaine logique dans son œuvre. Par contre, je dirais qu'il a une grande chance, c'est que d'un certain côté, il avait fait le métier, j'entends, de base, le métier de serrurier. Donc, il a travaillé la matière. Et il n'a pas été, je lui disais souvent, tu n'as pas été déformé comme moi. Moi, je suis ingénieur. Et aujourd'hui, quand on est ingénieur.
Par les écoles d'ingénieurs.
Voilà. Alors, on est tout de suite déformé parce que toutes les choses ont tout de suite une dimension quand on est ingénieur. Et lui, il avait aucune dimension. Et je me souviens toujours, par exemple, pour prendre toujours l'exemple de la façade, il me disait, mais le profil, il faut faire un profil tout fin. C'est le verre qui tient le profil. Alors que c'est jamais comme ça. De son esprit, il avait renversé le problème. Et c'est clair que ça m'interloquait. Ça nous ouvrait des questions. Et c'est vrai qu'au bureau technique, on a remis en question des choses à cause de son intervention. Mais tiens, c'est vrai, si maintenant on tournait le problème dans l'autre sens, comment est-ce qu'on ferait?
Nous sommes en compagnie de Laurent Félix et de Carlo Crisci. Nous parlons d'André Félix, l'entrepreneur, mais aussi le sculpteur. Une exposition, je vous le rappelle, au jardin du Centre Général Guizon à Puyi jusqu'au 30 octobre.
Heures, 14h, Pierre-Philippe Cadert, à première vue.
Laurent Félix et Carlo Créchy sont nos invités. Je vous rappelle cette exposition au Jardin Général Guizan à Puyi jusqu'au 30 octobre. Exposition consacrée au sculpteur André Félix. On a découvert là l'entrepreneur, parce qu'il faut bien un petit peu poser les jalons de savoir qui était cette personnalité. Et nous tentons de faire un lien entre André Félix et Carlo Créchy. Laurent Félix, vous avez évoqué votre père. Vous nous avez expliqué de quelle façon il concevait certaines de ses structures en aluminium, quelle vision il avait de son métier. Et tout naturellement, les liens se font avec vous, Carlo Créchy. C'est-à-dire que la matière première, elle est là, la matière brute, elle est là. En l'occurrence, c'est l'aluminium, mais pour vous, ce sont les fruits, les légumes, que sais-je. Et puis, vous tentez de concilier la forme et le fond, d'une certaine manière.
Absolument. On avait fait d'ailleurs une fois la liaison entre le travail d'un architecte et le travail d'un cuisinier qui, comme les deux travaillent pour quelqu'un, ça veut dire il y a une attente du client. Et on ne peut pas se perdre dans des divagations que le client comprendrait pas. Un cuisinier ne peut pas être non plus trop en avance. Avoir de l'avance, c'est une chose, mais trop, si votre cuisine devient illisible et pas compréhensible pour les gens, ce n'est pas possible.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une cuisine illisible, incompréhensible pour les gens?
Une cuisine illisible, c'est la cuisine, elle se doit de... Enfin, à mon sens, hein, oui. Elle doit réveiller des souvenirs. Elle doit un peu aller chercher les souvenirs d'enfance. Le goût, ça se constitue de souvenirs. Et si on touche à ça, si un de nos plats, malgré la modernité du plat, rappelle à quelqu'un un souvenir d'enfance...
C'est gagné.
C'est gagné. Et il n'y a rien de tel qu'un... D'ailleurs, c'est pour ça qu'en quelque part, les plats les plus simples, c'est les plats qui parlent le plus. Parce qu'un client, la première chose qu'il veut, c'est reconnaître déjà. Déjà là, si le client, par exemple, trouve un plat très bon, mais ne reconnaît pas les ingrédients qui sont dans le plat, il y a moitié perdu, parce que même si c'est bon, c'est pas lisible. Et là, il y a déjà... D'où une certaine recherche de simplicité. Et là, on se rejoint un peu avec M. Félix. À l'époque, il avait de l'avance sur moi, parce qu'à l'époque, j'étais un poil compliqué quand même. Mais quand Laurent parlait d'exprimer beaucoup avec peu, et qu'il a parlé des assiettes cassées, là, je voulais rebondir pour dire que l'assiette cassée, c'était une façon d'économiser l'assiette, parce qu'une assiette est bréchée. On ne peut pas la servir dans un restaurant soi-disant étoilé, enfin étoilé ou haut de gamme. Et c'est vrai qu'après avoir été mangé dans un restaurant que je nommerai pas très haut de gamme, il y avait une pile de vaisselle, pas possible, 5-6 assiettes pour présenter une Saint-Jacques. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a pour 300-400 francs de porcelaine pour une Saint-Jacques qui valait, je ne sais pas, 7-8 francs. J'ai dit, non, ça ne tient pas debout. Et moi, j'avais de la peine à me payer ma vaisselle, quoi. J'ai de la peine à tourner et tout. Et suite à ça, un ami me dessine une assiette ébréchée. Ça ressemblait à la coquille de Calimero, la coquille d'œuf. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est une assiette cassée. Et le déclic est arrivé. Et j'ai été chercher des assiettes ébréchées que je gardais pour faire des appliques, pour faire d'autres choses. Et là, je l'ai vraiment cassée. Et je me suis dit, mais voilà, avec une assiette ébréchée, j'en fais deux. Donc, c'est pas la même. Donc, j'économisais sur l'assiette, on choquait le client, et on choquait le client dans l'amuse-bouche. C'était une assiette d'amuse-bouche. Et le forcing qu'on faisait en plaçant cette assiette au départ ouvrait la porte au reste. Ça veut dire que le client étant interpellé, moi, ça me permettait de placer autre chose après. Le client se disait, tiens, c'est bizarre, à la base. Et après, il permettait, et s'ouvrait, l'esprit s'ouvrait.
Vous ouvrez des vannes, quoi,
d'une on ouvrait, voilà. Ouais. Donc ça, c'était déjà pour expliquer l'assiette cassée. C'est pas arrivé comme ça, j'entends. Il y avait quand même une raison. Ouais. La raison était économique, au départ. Les autres rapports entre le métier de sculpteur et le métier de cuisinier s'arrêtent là parce qu'en même temps, un artiste comme M. Félix pouvait très bien concevoir des sculptures et des choses reconnues plus tard. Un cuisinier ne peut pas. C'est pour ça que ça reste un artisan. Je veux dire, il ne peut pas être reconnu à
post-mortem. Parce que le cuisinier n'est pas un artiste.
Pour moi, un cuisinier, c'est d'abord un artisan. Ouais. Après, s'il touche avec, et qu'il arrive à créer de l'émotion... Mais bon, à la base, ça reste de l'artisanat. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas avoir trop d'avance. On doit être lisible et compréhensible de la part du client. C'est comme un architecte. Un architecte, on pourrait dire que c'est un artiste. Mais s'il fait une maison dans laquelle on ne peut pas vivre,
ou alors que les gens ne sont pas encore... Il y a des tableaux qu'on n'aime pas et des musiques qu'on n'aime pas.
Mais le tableau que vous n'aimez pas, vous ne l'achetez pas.
C'est vrai.
Et l'artiste qui aura fait ce tableau que vous n'achetez pas, il n'a en gros rien à faire, quoi, j'entends. Ouais. Il le vendra à quelqu'un d'autre, c'est pas un problème qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
On l'espère pour lui.
Voilà. Et à la limite, il y a des superbes artistes qui sont reconnus qu'après leur mort. Hein, et c'est pas quelque chose qui les travaille. Avec nous, c'est comme vous avez dit avant, c'est une entreprise. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent pour nous. Il faut que le restaurant soit plein. S'il n'est pas plein, on le ferme. À moins d'avoir un mécène, hein, j'entends, c'est pas possible.
Ce qui était différence,
ce qui était au début, mais dans une mesure quand même où il fallait quand même aller de l'avant et faire en sorte que ce restaurant tourne. C'était pas possible de se dire tiens, vas-y, il m'a jamais dit vas-y Carlo, éclate-toi, on n'a pas besoin de rentabilité. Ça, c'était pas du tout la marche à suivre. C'était quand même d'arriver à faire en sorte que ce restaurant devienne un jour rentable.
Vous parliez de la sculpture, de la cuisine, des rapports qu'il pouvait y avoir entre vos deux activités.
On a rarement fait le rapprochement ensemble. Mais lui avait des propos par rapport à ce qu'on faisait, quand il trouvait que les assiettes étaient belles, il trouvait... Moi, on m'a toujours traité du pain. D'ailleurs, à l'époque, c'était même presque une gageure. C'était même plus cuisinier, j'étais le peintre de l'assiette. Et on m'a traité d'artiste plus que de cuisinier. Au début, c'était même une espèce de tare que j'ai traîné assez longtemps.
Le toqué de Cossonay.
Le peintre, ou le... Voilà, ouais. Et alors que... À la base, on est cuisinier, on veut faire à manger. Ouais. Je pense que le goût est la première des choses. L'importance de l'œil est primordiale. Hein. Je veux dire, une assiette doit être belle. Mais encore une fois, la différence entre l'art et l'artisanat... Vous voyez, un très beau meuble, un ébéniste, ça peut être... Je ne sais pas jusqu'où l'ébéniste, par exemple, est un artiste. Ou même, je dirais qu'un peintre n'est peut-être pas un artiste. Hein. J'entends, c'est pas parce qu'on peint sur des toiles qu'on sera forcément un artiste. Quelle est la différence entre l'artisanat et l'art ? La limite, elle est quand même assez floue.
Elle est floue, oui.
Et moi, je pense bêtement que c'est au moment où on crée vraiment de l'émotion et qu'on passe dans l'autre catégorie, quoi. Mais ça, c'est pas à nous de le dire, c'est voilà.
C'est à ceux qui goûtent les plats ou à ceux qui regardent.
À ceux qui sont touchés.
Voilà, les œuvres d'André Félix, dont je vous rappelle l'exposition, se tient jusqu'au 30 octobre dans les jardins du Centre Général Guizan. Appuyez, nous en parlons avec Laurent Félix, son fils, et de Carlo Crisci, le cuisinier, donc bien connu, le cerf à Cossonay. Vous aviez une relation, Carlo Crisci, très privilégiée avec André Félix.
To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Hey.
C'est Tasha que l'on vient d'entendre, Be My Man. Vous êtes sur la première, il est 13h passé de 35 minutes. Je vous rappelle que dans cette émission, nous évoquons l'œuvre et la mémoire de André Félix, patron d'entreprise industrielle, pas tout à fait comme les autres, puisqu'après avoir commencé un apprentissage de serrurier dans les années 40, puis suivi les cours du soir aux Beaux-Arts, il était devenu à la fois entrepreneur et sculpteur, avec une certaine passion, on peut le dire, pour le modelage de l'aluminium, de l'acier entre autres, et de toutes ces matières qui a priori sont destinées à l'industrie. Une exposition retrace son parcours, elle se tient à Puyi, dans les jardins du Centre Guizan, cette avenue du Général Guizan à Puyi, 40 ans de sculpture, donc évoquée aussi à travers un livre. Et ce livre porte ce titre, Le génie industriel au service de l'art. Alors est-ce à dire, Laurent Félix, que les procédés industriels novateurs ont permis également de nouvelles façons de créer des formes artistiques?
Alors, j'écoutais Carlo tout à l'heure, et c'est vrai que je pense aussi dans la cuisine, on vit des évolutions technologiques aussi, hein, qui leur permettent de faire des choses qui nous surprennent davantage. Dans l'art aussi, mon père a évolué avec les matériaux de la construction qu'on utilisait. J'ai pu remarquer qu'il a, à certains moments, par exemple, il a fait des œuvres qui composaient le verre et le métal. Parce qu'on faisait effectivement des façades très, très vitrées. Donc il a souvent mélangé les deux, je dirais. J'ai vécu ces évolutions. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il a, il a eu vraiment des séquences ou des phases avec, par exemple, il a travaillé le laiton, le cuivre et le laiton pour commencer. Et après, il a complètement renié cette phase-là pour passer à une phase où il travaillait que l'acier, quasiment l'acier à vif, au chalumeau. Ensuite, il a passé dans les thermolaqués mélangés avec du plexi. Après, justement, peut-être de l'aluminium avec du verre pour ensuite faire des éléments en inox. Donc, du reste, dans les dernières années, il a fait sa main. Très belle création où on voit une main qui fait 2 mètres de haut, découpée et qui je trouve très bien mise en valeur dans le parc du Centre Général Guizan à Puyi. Venez voir, ça vaut la peine.
Comment était-il perçu par les autres artistes plus jeunes que lui de son vivant? Parce que tout à l'heure, vous nous décriviez son éruption en costume-cravate dans des...
Alors, c'est la très bonne question. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire un livre. J'ai voulu faire quelque chose maintenant pour lui. Parce que je pense que dans le monde des artistes, il a jamais été reconnu vraiment. Chaque fois qu'il a été, accompagné dans ce monde-là, on l'a toujours fait savoir, mais qu'est-ce que tu fais là, dans le fond? Parce que comme si le monde des artistes était réservé à ceux qui sont politiquement de gauche, qui à la limite vivent que de l'art, et surtout pas un entrepreneur et un chef d'entreprise.
Donc, trop bourgeois.
Voilà, trop bourgeois ou trop, je sais pas. Et là, j'ai senti qu'il y avait toujours un malaise. Et c'est malheureux parce que vraiment, il était artiste. Et ça, il a beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, à peu près 300 œuvres de sa part qui n'ont jamais été présentées et que j'essaie de mettre en lumière aujourd'hui parce que c'est... Il était modeste pour finir. Il n'en a pas fait trop parce que je pense qu'il est resté dans sa place en se disant effectivement, mon art sera reconnu plus tard ou j'en sais rien. Mais je pense que ça vaut la peine de le faire aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup et c'est la raison pour laquelle aussi je suis en train de créer cette fondation pour essayer de mettre en lumière toutes ces œuvres.
Mais vous en parliez avec lui ou pas de ça, de ce rejet de la part des artistes qui lui étaient contemporains?
Non, on n'en a jamais parlé vraiment. Je l'ai surpris de temps en temps dans des conversations parce qu'il ne comprenait pas justement la position de certains « artistes » ou « représentants de sociétés d'art » qui prenaient des positions par rapport à lui. Parce qu'on lui faisait clairement comprendre qu'il n'avait rien à faire dans certaines situations. Et ça, il ne comprenait pas.
C'est-à-dire que normalement, il était plus dans la situation de l'acheteur vers l'artiste beaucoup plus pauvre que lui, plutôt que dans celui...
Voilà,
il prenait une part du gâteau.
Est-ce qu'artiste, ça veut dire pauvre?
L'artiste fustige le bourgeois, mais le bourgeois est le seul qui peut effectivement acheter l'œuvre de l'artiste. Donc on peut à la fois le fustiger, mais en même temps,
on peut le caresser dedans. Je l'ai toujours compris comme ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je cherche à faire cette fondation. C'est pour aider des jeunes qui comme mon père, ont fait au départ de leur... mon père a fait donc cette école d'art, mais en qualité d'auditeur. J'essaie de faire en sorte que dorénavant, les jeunes qui ont vraiment envie de faire de l'art ne le fassent plus comme auditeur, mais le fassent vraiment complètement et à un métier par la suite.
Carlo Crisci, on a évoqué votre restaurant qui, donc je le rappelle, était l'une des forges de l'entreprise familiale, restaurant que vous a confié donc André Félix et dans lequel vous êtes toujours aujourd'hui à Cossonay-Ville, c'est le Cerf, je le rappelle, dans lequel on peut voir certaines œuvres d'André Félix. Ce sont des œuvres que vous avez choisies, elles étaient là, il vous les a proposées, comment ça s'est passé?
Oui, il y avait un échange, donc au départ, encore une fois...
Un repas, un tableau.
Il y avait... Voilà, ça aurait été pas mal.
Elles sont en location.
Voilà. elles sont en location longue durée. Ouais. Je dirais même, comme je t'ai dit l'autre jour, j'ai l'impression que cette maison, je me verrais mal les enlever d'ailleurs. Même que cette maison, il a eu la gentillesse de me la vendre il y a quelques années. Les œuvres de M. Félix, ils sont à leur place dans le sens où ça reste. Même, il n'y a pas une histoire de propriétaire ou pas propriétaire. Je pense qu'il habite les murs. De par la présence de certaines œuvres que je me verrais mal enlever, qui ont été choisies en communauté, en fin de compte, j'allais me servir un peu chez lui. J'étais assez demandeur.
C'est une situation rêvée, ça.
Voilà, tout à fait. Ouais. Elles font partie des murs, quoi. Quelque part, je pense qu'en respect par rapport à M. Félix, je me verrais mal dépendre une œuvre à M. Félix. Mmh. Il y a des artistes autres que M. Félix aujourd'hui qui sont au Cerf. Certains maintenant tournent de plus en plus difficilement parce qu'encore une fois ils finissent par habiter les lieux et des fois c'est vrai que c'est difficile d'enlever une œuvre qui est trop bien quelque part. Mais par contre les autres tournent, hein, à part certains habitués. Et alors que M. Félix, je vois très mal comment dépendre M. Félix. Je veux dire, ça serait presque lui faire offense, à mon sens, quoi. Il y a quelque chose il y a un lien qui s'est créé, aussi bien au niveau de la bâtisse qu'au niveau de ces pièces-là, quoi. Voilà. Je crois qu'il est, il est encore parmi nous.
En cuisine, je ne dis pas peut-être tous les jours, mais vous arrive-t-il de penser au destin de ce bâtiment qui donc était une forge, vous qui êtes aussi sur des plans de travail en aluminium, en inox?
Mais je pense souvent à la force du bâtiment par contre. Je sais pas, je pense à un bâtiment qui est habité. Moi qui suis quelqu'un qui me lasse de tout et vite, jamais j'aurais pu imaginer faire 30 ans dans une maison. Et je pense que si le Cerf n'avait pas cette force, on m'a proposé souvent d'aller ailleurs, à Lausanne, à Genève, voire plus loin. Mais cette maison a une telle force, une telle aptitude à pousser vers la qualité. Il y a quelque chose qui se passe dans cette maison qui fait que je ne suis jamais parti et que je ne suis pas lassé. Tous les jours, je rentre dans cette maison et je rentre dans la salle et je la trouve de plus en plus belle. Quoi, je veux dire, elle a une âme qui ne s'explique pas. Quoi, voilà. J'espère que ça va durer encore longtemps.
Discret hommage à son passé, les portes de votre restaurant.
Alors les portes du restaurant, c'est malheureusement pas M. Félix qui les a faites. Et comme d'ailleurs pas mal de choses que je lui avais demandé, mais il était aussi, comme on l'a dit, entrepreneur, il n'avait pas toujours le temps de s'amuser à faire. Par exemple, je lui avais demandé de me faire des appliques. Et on en parle souvent parce que j'ai demandé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout d'un moment, j'ai été les acheter. Et c'était sympa parce que je les pose et c'est là qu'on voit le personnage. Hein. Je pose les appliques, il arrive. Donc avant, c'était des appliques en fer forgé. Puis moi, j'arrive avec des petites torches toutes simples. Voilà. Mais j'avais demandé des fers, tout bête. Puis il n'y a pas le temps. Il voit les appliques, il dit c'est quoi? Ah, c'est pas mal, c'est joli, c'est bien. Bon, on aurait pu faire plus simple. Hein, on aurait pu. Je dis ouais, bon, mais il aurait fallu le faire. Si... je sais pas, juste de le dire, hein, fallait le faire. Et moi qui suis impatient, à un moment donné, il dit bon, ah ouais, d'accord. Ouais, bon, ça fait partie des murs, ce truc, hein, ça fait partie des murs. Alors, voilà, puis il me les a payés, ces appliques, alors que je n'ai pas demandé, en fin de compte, je les ai posées. Et puis, alors, et voilà, c'était sa façon d'être généreux et de participer, quoi. Il aimait aussi, quand on a transformé la cuisine, c'était en même temps que les toilettes. Il faut se remettre il y a plus de 20 ans en arrière. Et une carte blanche pour faire ses toilettes, pour faire tout, mais c'était invraisemblable ce qu'on a fait là-haut. Je veux dire, c'était une transformation que aucun propriétaire aurait pu faire sans me demander d'augmentation de loyer ou quoi que ce soit. Il l'a fait pour le bien de la maison, pour qu'on puisse évoluer, avancer et tout, avec une confiance complètement aveugle. C'était juste du bonheur, quoi. C'était fantastique. Et on a fait des toilettes qui, à l'époque, n'avait pas de pareil, quoi. J'entends, c'était complètement fou de mettre autant d'argent dans des toilettes, hein, à l'époque. À l'époque, un journaliste avait parlé des plus belles toilettes d'Europe occidentale.
Mais il n'a pas répondu à ma question sur les portes du restaurant.
Alors, si les portes du de restaurant, alors c'est une collaboration avec un autre sculpteur qui est Crayenbull.
Crayenbull, justement, mais
qui habite un peu les murs maintenant, qui est un ami, et puis avec qui est aussi un poète. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime. C'est un personnage
qui rappelle la forge.
Qui est, tout à fait, qui est un artiste comme M. Félix et avec qui j'ai une amitié. Une vie, elle se constitue de rencontres. Hein. Alors, il y a eu M. Félix qui m'a beaucoup aidé au départ. Étienne fait aussi partie de mon enrichissement au niveau déjà amical. Et puis ensuite, il m'apporte beaucoup encore. Il a pris un peu le relais de M. Félix en ce qui concerne l'art, par exemple. Ça, c'est vrai.
Je pense que tous deux avaient ce point commun, c'est que lorsqu'ils devaient déménager, ça se chiffrait en tonnes. Parce que quand Crayenbull déménage, ils font un 40 tonnes. J'imagine qu'André Félix, lorsqu'il déménageait, si jamais il a déménagé dans sa vie, j'imagine que ça aurait dû être quelque chose d'absolument dantesque, non ?
Il n'a pas déménagé, heureusement.
Il a déménagé, heureusement. Non.
Encore que l'aluminium est plus léger que la fonte. C'est juste. Mais il faut se méfier.
La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là. C'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir en Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. C'est magnifique.
C'était Benjamin Biolay, c'est magnifique. Et vous êtes sur la première, nous sommes en compagnie d'André Félix et de Carlo Crisci. Nous évoquons la mémoire de André Félix, le sculpteur dont une exposition retrace 40 années de sculpture jusqu'au 30 octobre au Centre Général Guisan à Puy. On évoque, je vous le rappelle, cette exposition qui se tient jusqu'au 30 octobre dans les jardins du Centre Général Guisan à Puy. Exposition consacrée à André Félix, le sculpteur. On a évoqué la création future de cette fondation qui sera destinée à faire mieux connaître son œuvre. Aujourd'hui, pour parler crûment, sur le marché de l'art, a-t-il une cote ? Est-ce qu'on parle de lui ? Est-ce que ses œuvres sont recherchées ? Ou est-ce que là encore, il joue profil bas, pour faire un jeu de mots ?
Alors, effectivement, je crois qu'il est très méconnu dans le monde de l'art aujourd'hui. Même s'il a été invité pour exposer à New York ou invité à l'époque par la Confédération pour représenter la Suisse au 700e anniversaire, c'était à Cambridge. ok, il a eu des moments, je dirais, de gloire, mais il n'a jamais recherché, je crois, vraiment la reconnaissance à ce niveau-là. Aujourd'hui, justement, la famille et mes enfants qui sont devenus directement les héritiers de toutes ces œuvres ne savent pas tellement quoi faire de ces œuvres. C'est ce qui m'a donné l'idée maintenant de créer cette fondation pour mettre au jour toutes ces œuvres et réussir par justement le fruit des locations des œuvres qu'on pourra faire, c'est de pouvoir financer dans le fond des études pour des futurs étudiants qui ont envie de vraiment se lancer dans l'art. C'est ça le truc, il est vraiment de pouvoir permettre aussi à d'autres propriétaires d'œuvres, dans le fond, de ressortir des caves et des placards, des œuvres qui ne sont pas connues aujourd'hui, et puis de réussir à faire connaître toutes ces œuvres. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup malheureusement d'œuvres qui sont méconnues aujourd'hui, et je crois que c'est le moment de les mettre en lumière. Et l'idée de la fondation avec des locations, justement de très bon marché, c'est de réussir à mettre accessible dans le fond l'art à tout le monde. C'est un petit peu ça. Au bout du chemin, si je vais au bout de mon idée, parce que je suis aussi un petit peu des fois entrepreneur, c'est de dire mais pourquoi est-ce que chez IKEA on ne pourrait pas arriver avec un système comme celui-là, et puis les gens dans le fond ils ont un catalogue d'œuvres qu'ils peuvent louer, et puis ils rentrent dans un système où ils louent des œuvres et puis ils changent.
Ça commence à se faire pour la peinture.
Ah voilà, c'est très bien. Ouais. Il faudrait pouvoir le faire aussi pour les sculptures. Je trouve que ça serait pas mal.
Voilà, pour certaines, il faut avoir de la place et disons avoir la certitude que le plancher va tenir, non ? Parce qu'il y en a certaines qui sont un peu lourdes.
Alors effectivement, ça,
je peux me permettre.
Certaines qu'à l'extérieur. Ça.
Ces œuvres, elles sont exposées à l'extérieur. Vous ne craignez pas de...
Attention, il y en a à l'extérieur et à l'intérieur.
Oui, hein. Mais celles qui sont à l'extérieur, vous ne craignez pas les intempéries, le soleil, l'usure du temps ? Ou est-ce qu'il faut justement que le temps passe sur les œuvres ?
On leur a donné un petit coup de jeune. Hein. Je crois que c'est effectivement cette exposition a eu ça, cet avantage de remettre en question les choses. Et on a redonné un petit coup de peinture. On a retrouvé du reste les râles qui avaient été choisis à l'époque par mon père. Et on s'est appliqué à essayer de reproduire les mêmes couleurs. On s'est aperçu aussi que papa a beaucoup utilisé l'aluminium parce que bien sûr ça rouillait pas.
Voilà. C'était malin.
ou l'acier inox aussi, je veux dire que c'est des matériaux qui préféraient par rapport aux autres. Je pense qu'il avait envie de durer.
Est-ce qu'il a eu plus de reconnaissance à l'étranger qu'en Suisse ?
Écoutez, si on part du principe que la plus grande œuvre qu'il a réalisée, qui était la famille, qui faisait 6,50 m d'eau, a été achetée en Angleterre, peut-être.
C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a toujours cette sorte de syndrome qui est assez inexplicable. Pourquoi les artistes de ce pays sont parfois plus reconnus à l'étranger qu'ici ?
Nul n'est prophète en son pays.
Voilà. C'est votre cas aussi, Carlo Crisci ?
Ah ben disons que...
Non, vous êtes prophète dans votre pays quand même.
Italien d'origine, je sais pas trop, ça. Fribourgeois, en terre vaudoise.
Ouais,
non, je pense que la logique aurait voulu que je continue à Châtel-Saint-Denis-les-Paco et je suis à Cossonay, quoi. Donc quelque part, la reconnaissance a été aussi à l'extérieur. Pas très loin, mais à l'extérieur.
Tout ça grâce à un coiffeur gastronome.
Un coiffeur gastronome, exactement.
C'est quand même incroyable.
C'est absolument.
Alors si vous voulez voir les sculptures, je vous rappelle que ça se tient donc jusqu'au 30 octobre dans le jardin du Centre Général Guizan-Appuyer, mais aussi au centre, puisque vous aurez compris qu'il y en a en intérieur et en extérieur, des sculptures d'André Félix dont nous avons parlé aujourd'hui en compagnie de son fils Laurent Félix et du cuisinier Carlo Crisci qui tient le cerf à Cossonay. Merci à tous les deux d'être passés nous voir et bonne fin de journée à vous.
Merci,
merci
à vous.
Merci. With the music.
William Wild, Soul Rider. Nous avons passé cette heure, je vous le rappelle, en compagnie de Laurent Félix et de Carlo Crisci. Nous avons évoqué la mémoire d'André Félix, le sculpteur, exposition à voir à la maison du général Guizan à Lutry, à Lausanne. Et puis demain, je vous donne rendez-vous avec Mario Del Curto, le photographe bien connu, spécialisé dans les scènes artistiques. Il est parti à la rencontre d'une centaine d'artistes méconnus, créateurs d'art brut, personnalités étonnantes, dont certaines sont par exemple obsédées par le cinéma, qui ont reconstitué chez elles en carton, en figurines de carton, la quasi-totalité des stars de cinéma de la planète. Bref, voilà, c'est une exposition assez étonnante. Il a parcouru le monde entier pour ça et c'est un magnifique travail. Tout à l'heure, après les informations, vous avez rendez-vous avec un dromadaire sur l'épaule. Je vous rappelle que toute cette semaine est consacrée à autour du 11 septembre, appelons ça comme ça. Cyril Desprats, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous partons pour un camp célèbre, tristement célèbre, celui de Guantanamo.
Oui, on a fait, enfin, on a, c'est Jean-Combe de Lalleuil qui a fait le voyage pour la deuxième fois, d'ailleurs, à Guantanamo, pour aller non pas interviewer les prisonniers, parce que on peut toujours pas interviewer les prisonniers, y compris ceux qui ont
d'ailleurs,
été condamnés.
D'ailleurs, il n'y a pas de prisonniers.
Il n'y a pas de gardien,
c'est une légende.
Il n'y a que juste du rhum et des cocotiers.
Ouais.
Non, donc voilà, on va partir.
C'est un camp militaire américain.
C'est un camp militaire américain à la base qui avait été. Il y avait un accord commercial avec Cuba. Donc les États-Unis payent chaque année de l'argent aux Cubains. Fidel Castro ne
touche
pas l'argent. Et donc voilà, c'est une base navale qui aujourd'hui abrite depuis les attentats de nombreux prisonniers. On sera dans les couloirs de cette prison de Guantanamo avec Joaquim de la Lalleuil.
Gilles Saint-Boucher était en régie aujourd'hui en compagnie d'Hélène Ichter. C'est la programmation était assurée par Nathalie Schauenberg. Rendez-vous demain. Bonne fin de journée, il est 14h.